Chantal, comment ça va?
Ça va très bien.
On dit bonjour à notre accompagnateur aujourd'hui. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ah là là, un petit bonjour, ça c'est bien. Là, c'est mieux.
C'est bon?
Oui, absolument. Donc, on rappelle que tous les mercredis alentours de 16h-là, nous recevons nos amis d'Institut.
Oui, avec plaisir.
La directrice générale, la grande Manitou, d'Institut, c'est Mme Chantal Lheureux.
Mais il n'y aura pas d'émission sans des collaborateurs. Il y a une équipe.
Bien sûr.
C'est pas que
bien sûr.
Chantal Lheureux, c'est une équipe aussi.
Mais quand même, les équipes sont souvent identifiées à des visages.
Dont Robert Loca, qui est un pilier de l'équipe.
C'est ce que j'allais dire.
Oh, d'accord.
Sans Robert, il n'y a pas d'émission parce qu'il n'y a pas de technique. Minimalement.
Mais il ne fait pas que de la technique. Il fait de la chronique, du montage.
C'est pour ça que je dis minimalement. Malement. Il n'y a même pas d'émission. Donc, le montage, c'est bien beau avoir le montage. Qu'est-ce qu'on en fait on n'est pas capable d'émettre? Donc, vous nous parlez de quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, Neil, en tout cas, ces temps-ci, on peut dire qu'il y a plusieurs films d'art visuel. Mm-hmm. Pendant longtemps, on n'avait pas de films en art visuel, mais ces temps-ci, on a droit à des sorties de films en art visuel l'un après l'autre. Et en voilà un autre qui, Neil, va prendre l'affiche demain. Donc, aujourd'hui, place à ce film de Neil. Justement, Neil.
Ah oui, lequel?
Neil Tavernier.
Désolé.
Relatif aux arts visuels, et qui concerne un fait vécu absolument insolite, celui d'un dénommé Joseph Ferdinand Cheval, qui est né en 1836 et qui est décédé en 1924, facteur de métier, qui marchait pour exercer son emploi, mais aussi pour recueillir ce dont il avait besoin pour créer. Et il s'est consacré toute sa vie, avec une détermination inébranlable, à une seule œuvre, celle de construire durant 33 ans, en Pierre des Champs, un palais idéal, monumental, hors norme, en hommage à sa fille adorée.
Quand on voit à travers l'écran, à travers son siège, ce qu'il a réussi à faire, on ne peut pas comprendre. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on peut voir?
Mais c'est ça. C'est que dans le fond, c'est sa fille. C'est une œuvre de la démesure qui est située à Haute-Rive en France. Ben, il est considéré, Neil, pour te répondre à ta question, comme un maître de l'art brut. Inspiré, donc, c'est un art particulier dans le domaine des arts visuels. Donc, autodidacte, sans formation, rien. Alors, ses sources d'observation, ses sources d'inspiration, c'était l'observation de la nature. La communion avec la nature, les cartes postales qu'il y avait à l'époque, fin 1800, début 1800, des cartes postales d'architecture hindoue, égyptienne, toutes les mythologies associées, ça le fascinait. Alors, ça a inspiré beaucoup sa construction et il a fait sa construction sans aucun plan. Ça, oui. C'est pas...
D'où l'idée de relancer Chantal essaie de nous faire voir à travers tes mots ce que représente cette construction en pierre. Pour un auditeur qui ne peut est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand?
C'est monumental, inspiré de contes orientaux.
Les dimensions, c'est 26 mètres sur 12.
26 mètres de largeur par 12 mètres de profondeur. 12 mètres de haut.
Oui, alors c'est considérable. Non,
une pierre à la fois.
En fait, ce qui était aussi surprenant, c'est qu'il était facteur et il avait des tournées considérables. Je pense que c'était 28 km par jour qu'il faisait. Wow. Et le soir, dans ses temps libres, à la lueur de la bougie, éventuellement, il construisait cette maçonnerie-là incroyable, qui est plus une sculpture, mettons, habitable, une sculpture creuse, qu'un véritable palais. C'est pas quelque chose qu'on peut habiter comme tel. Là. Mm-hmm. C'est une construction qu'on a comparée un peu au temple d'Angkor. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Oui, oui, absolument.
Bon. Et puis, on a aussi comparé, dans un sens, son délai créatif à celui de Louis II de Bavière. Mais Louis II de Bavière, évidemment, avait des revenus princiers, puis construisait des choses en or, etc. Lui, c'était comme bizarre, simplement bizarre. Tellement que à un moment donné, Malraux a classé ça comme monument historique, le ministre de la Culture français, alors que des rapports dans son ministère disaient que c'était hideux, etc. Alors, c'est toujours comme une prise de position. Les artistes comme Boris Vian ou même Picasso, etc. Ouais. Appréciait ça, mais c'était un petit peu... Et au début, dans son coin, les gens riaient de lui. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à prendre de l'intérêt pour ça, puis il a demandé la permission de le photographier, puis de faire des cartes postales avec ça, etc. Puis là, il est devenu comme une célébrité, un peu.
Oui.
Donc, par défaut, la grandeur même de l'œuvre, physiquement, a amené les gens à se poser des questions, à réaliser qu'il y avait quelque chose qui se passait là.
En plus de ça, c'est qu'après 33 ans, ça a pris 33 ans, il a décidé que c'était fini. Mais là, 3 ans après, il a construit son caveau, son mausolée, si vous voulez.
À l'intérieur?
Non, au cimetière local.
Okay.
Parce qu'il ne faut pas se faire enterrer sous le palais, c'était pas permis par la loi.
D'accord.
Alors, comme projet de retraite, mettons, il a mis 8 ans.
Il s'est fait un caveau.
Son caveau dans le même style, plus ou moins, un peu.
Et on voit, on vit ça à travers le film.
Oui.
C'est ça. Moi, je trouve que le film, c'est que le film a opté pour un récit chronologique, mais il a le mérite, justement, de faire de l'œuvre et son évolution, le personnage central. On voit l'évolution de l'œuvre, ça c'est intéressant. Et c'est à l'image du vécu intérieur de cet artiste-là.
Donc,
quand il va pas bien, il s'arrête.
Donc, quand on le voit, cette progression, est-ce qu'on le voit en photo? Comment est-ce qu'on visualise cette progression? Est-ce qu'ils l'ont réalisé ou est-ce qu'ils ont utilisé des vraies images?
Les deux.
Ils ont
reconstruit des parties, puis ils ont été filmés sur place.
Le site existe présentement à l'heure actuelle. C'est à Haute-Rive, dans le Drôme. Les gens peuvent aller le visiter, etc. Pour les premiers, je sais probablement qu'on a seulement montré quelques amas de pierre. J'aurais aimé d'ailleurs voir davantage le détail de tout ça, parce que c'est pas quelque chose d'habitable, mais il y a quand même des galeries à l'intérieur qu'on peut voir.
On aurait aimé ça explorer l'intérieur.
Et il y a beaucoup d'inscriptions. Ils faisaient des inscriptions philosophiques. Ou je sais pas quoi, à différents endroits dans la pierre ou le stuc ou ce qu'il utilisait.
On aurait voulu avoir...
Un peu plus à ce niveau-là. L'autre chose que j'ai trouvé qui manquait dans un sens, mais c'est pas essentiel, c'est que j'aurais aimé savoir qui c'était au juste ce gars-là, parce que, bon, c'est un gars qui était peu instruit, alors que ses inscriptions comportent peu ou très peu de fautes d'orthographe. Alors, c'est probablement sa femme qui passait derrière. Mais il était... probablement autiste ou Asperger, parce que il avait vraiment des difficultés relationnelles avec les gens.
C'est ça.
Pas au point d'être désagréable avec eux, il était comme absent un peu, il avait de la difficulté.
C'est pour ça toute l'importance, comme je parlais du mérite, c'est que le film nous permet de voir la construction de l'œuvre. Ça, on le vit.
Mm-hmm. Hein?
À une époque où il y avait un autre rythme, c'était plus lent. Et l'autre mérite, le film, c'est celui de démontrer tout le bienfait de l'art dans le cas de cet artiste replié sur lui-même pour s'épanouir. Il va finir par s'épanouir avec son œuvre d'art, par socialiser avec tous ces touristes qui viennent voir son œuvre, à surmonter les nombreux deuils qu'il a dû subir. C'est grâce à son œuvre qu'il surmonte ses deuils souffrants.
Oui.
Et ça, c'est intéressant de voir tout le... Donc, pour moi, le personnage central, c'est pas tant le facteur cheval, c'est l'œuvre.
L'œuvre. C'est pas un film... On vient souvent parler ici d'œuvres sur des peintres, etc. Et ça présuppose presque une sorte d'intérêt des auditeurs pour l'art, etc. Tandis que là, l'art n'est pas le seul véhicule. Le simple... expérience humaine que ça constitue sa vie, fait en sorte que c'est
un large public. Il y a un intérêt. Donc, de façon générale, on parle de combien de temps?
Ça passe très vite. C'est un très bon film.
Une 90aine de minutes à
Ils disent 105 minutes.
105
j'ai lu,
minutes, oui.
Mais personnellement, j'avais cru que c'était plus long que ça. 104 minutes.
OK, 104 minutes. Et
on peut dire que c'est un bon film, Neil?
Ben, c'est ce que j'allais vous poser.
Les acteurs sont excellents. Excellent.
Ah ouais,
hein, on voit toutes les personnes qui doivent composer cet artiste-là très silencieux, replié sur lui-même. Alors, ça montre toute la dynamique de ce que ça implique de côtoyer...
Le journaliste, sa fille.
C'est ça. Le film est émouvant. Il y a des moments d'émotion, beaucoup, beaucoup vers la fin. Les reconstitutions d'époque, ça, c'est extraordinaire.
La fin est très belle, d'ailleurs, parce qu'il avait construit ce palais-là, le palais idéal pour sa fille.
Mais
Alice.
Disons pas trop, Robert, il ne faut pas trop en dire.
Pourquoi? Non, mais la fin, quand même,
c'est pas
comme voler le punch, c'est parce que c'est sa petite fille, finalement, qui va se marier officiellement dans le palais idéal. Alors, c'est un peu comme un retour des choses. La petite Alice n'aura pas vu la complétion de l'œuvre, mais c'est sa petite fille qui va épouser célébrer son mariage, là.
On voit que c'est...
Recommandation ou pas?
Ah oui.
Ah non, oui, oui.
Absolument.
Oui, mais c'est particulier comme film, mais c'est...
Évidemment.
On vit cette construction, cette création, l'évolution de l'œuvre, là,
intensément. C'est un tempo lent, faut être prêt à prendre ça, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a de l'émotion, il y a du senti, il y a quelque chose de... Ça me fait penser un petit peu à Parbou, à Jean Clorette.
Je vous remercie beaucoup.
Peut-être juste mentionner que c'est au cinéma Beaubien, au cinéma Quartier Latin, cinéma Ponvieux, Gouzeau Ponvieux, jusqu'à présent. Et puis, c'est une recommandation si vous voulez vivre cette expérience-là de la création artistique du début à la fin, parce que ça se termine avec la mort du facteur.
Très intéressant. Très intéressant.
Je suis très heureuse d'accueillir Pierre Archambault en studio. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Oui, pour nous parler de Facteur Cheval. Hein?
Oui.
L'incroyable histoire du Facteur Cheval. Quel film?
Un film de 105 minutes réalisé par Nils Tavernier, qui est le fils de Bertrand Tavernier. Alors non, ce n'est pas une histoire de cirque équestre, mais bien l'histoire incroyable d'un postier dont le nom de famille était Cheval, un homme de peu de mots qui vivait très humblement.
Oui.
Et c'est après la mort de sa femme qu'il rencontre Philomène, qui va lui donner une fille nommée Alice, et pour laquelle il investira 33 ans de sa vie à construire un château d'une complexité incroyable, alors qu'il n'avait aucune connaissance en bâtiment, ni même de comment fabriquer du ciment.
Aucun plan.
L'histoire se situe en France, dans la Drôme, je crois que ce sont les Alpes, à la fin du 19e.
Donc c'est à Haute-Rive, selon mes informations.
Oui, mais la Drôme, c'est la région, disons.
Oui.
Et donc c'est à la fin du 19e siècle, même époque que les impressionnistes, auxquels s'était lié le fameux douanier Rousseau, qui était un peintre naïf. Et c'est aussi le cas de Cheval, qu'on a surnommé l'architecte naïf. Alors, ce sont des cartes postales montrant les temples hindous que son patron à la poste lui avait donné, qui a été l'élément déclencheur du style de construction. Le tout était décoré de personnages, de têtes humaines, de motifs variés. Il y avait plusieurs étages, des couloirs, en tout cas une grande complexité. Et tout ça construit de ses propres mains, sans aide. Il choisissait les pierres qu'il trouvait sur le chemin qu'il parcourait pour la livraison du courrier. Alors, on peut dire qu'il était vraiment investi d'une mission surnaturelle, car il disait que c'était les fleurs et les oiseaux qui lui dictaient les techniques de construction de ce château offert à sa fille Alice. Alors, je dois souligner le comédien Jacques Gamblin, qui est totalement investi du personnage, qui était un personnage introverti, de peu de mots. Donc, les émotions passent beaucoup par le visage et le langage corporel. Son jeu d'acteur évite la caricature qui aurait pu être facile, et même le ridicule auquel ce genre de personnage peut piéger l'interprète. Il y a aussi le rythme du film qui est lent. Ça nous plonge vraiment dans cette fin 19e siècle. Et aussi la caméra qui nous fait apprécier le paysage montagneux et vallonneux que le facteur Cheval sillonnait quotidiennement. Et vers la fin de sa vie, il a reçu divers honneurs. Il y a même un photographe américain qui a capté le château sous divers angles. Et on en a fait les cartes postales qui ont été diffusées évidemment à travers le monde entier. Bref, c'est un film qui m'a ému, que je recommande aux gens curieux et aux gens qui aiment un peu l'inusité.
Et pour moi, il y a un autre mérite au film, Pierre, celui de démontrer tout le bienfait de l'art dans le cas de cet artiste très replié sur lui-même. Ça l'a aidé à s'épanouir, socialiser, surmonter les nombreux deuils avec lesquels qu'il a dû subir. Hein. Et puis, c'est un artiste considéré comme possiblement autistique, atteint du syndrome d'Asperger, possiblement. C'est ce qu'on mentionne.
Oui. On ne connaissait pas ces maladies-là, mais ça peut ressembler. Ouais.
Pour moi, les acteurs, effectivement, sont excellents. Le film émouvant, la reconstitution des fascinante. Alors, moi aussi, je recommande fortement ce film-là. Alors, oui, et c'est à l'affiche au cinéma Beaubien et dans quelques autres cinémas, notamment le Quartier Latin. Voilà.